Donc, je vais vous souhaiter la bienvenue à tous et je vais être relativement bref. Je voudrais déjà sincèrement vous remercier tous d'être présents, les intervenants, les participants, parce que l'assemblée va s'étoffer dans les minutes ou les heures qui suivent. Là déjà, on a deux intervenants du matin dont je viens d'apprendre qu'ils sont partis il y a 20 minutes, donc c'est sûr qu'ils vont être là très bientôt. Et je voudrais évidemment remercier l'ENSI, mais aussi les institutions parties prenantes, l'ENS de Lyon et l'Arc 5 pour l'organisation de cette journée. Et juste rappeler que en ce moment, il y a peut-être un joli Kairos à Lyon où il y a une dynamique par rapport aux questions qui nous intéressent, qui semble assez importante et pouvoir s'exercer dans des espaces relativement confortables. Je voudrais juste préciser aux intervenants qu'il faut absolument qu'ils se sentent confortables, à l'aise, dire que s'ils veulent parler plus longtemps que prévu, ils peuvent sans souci. S'ils veulent parler moins longtemps que prévu, ils le peuvent aussi sans souci. L'important, c'est tant qu'il y ait la possibilité d'un débat, d'un échange et entre nous tous qui sommes de disciplines bien diverses, mais aussi un débat qui s'inscrivent dans la longue durée. La thématique qui nous rejoint aujourd'hui, c'est la question de l'écriture comme terme médian entre ce qu'on considère comme habituellement de l'ordre de la technique et ce qu'on considère comme d'un ordre peut-être supérieur comme l'ordre des activités intellectuelles. Alors, je voudrais rappeler juste en clin d'œil humoristique le fait que cette question taraude certains d'entre nous, dont par exemple Philippe Rugiel et Clarisse Ehrenschmidt, depuis exactement 20 ans. Ça fait 20 ans qu'on avait monté à l'ENS un programme de recherche sur l'Internet et la transformation des pratiques des chercheurs. On insiste sur le fait que si on va essayer de travailler les questions de l'Internet, de l'informatique, des réseaux, et ce sera toujours avec comme horizon la question de la recherche, des pratiques des chercheurs. Je me sens pas tout à fait compétent pour parler des grandes évolutions économiques de l'Internet, ni des questions d'appropriation du grand public qui aujourd'hui commence à dépasser le milliard de personnes. Alors, depuis 20 ans, on peut dire qu'effectivement, il y a eu quelques évolutions qui sont souvent précisées dans les médias. Remarquons simplement que les médias ne parlent de l'Internet et du numérique que depuis 10 ans. Pendant très longtemps, il y avait des spécialistes qui s'intéressaient à ça et qui se disaient « Mais comment ça se fait que les journaux n'en parlent pas ?» etc. Parmi les évolutions, on peut remarquer une position un petit peu ambiguë des sciences sociales et humaines sous une forme très très générale, qui sont où en fait on a énormément de mal à problématiser ce qui se réalise avec l'Internet et ce qu'on appelle le numérique. Et certains d'entre nous et notre corps défendant nous retrouvons à produire des discours d'escorte sur les nouvelles technologies sans perspective critique, et en plus nous sommes tous pris dans des logiques de consommation dont nous avons du mal à nous départir. Et pour autant, si on regarde un petit peu les réponses qu'on peut apporter à ce qui se passe aujourd'hui, la manière dont nos pratiques sont transformées dans le quotidien le plus banal comme aux franges de l'épistémologie, on remarque que si on veut avoir des éléments de réponse, ces éléments de réponse datent de bien avant l'Internet. En l'occurrence, pour ma part, j'ai beaucoup profité des théories d'un anthropologue, Jack Goody, sur l'écriture, qui dit que c'est une technologie de l'intellect, accessoirement réflexive, et l'accessoire est très très important. Jack Goody a écrit ces choses entre 1973 et 1990. Après, il a continué à écrire beaucoup de choses, mais il est parti du principe que l'écriture, il en avait fait le tour. Alors, C'est vrai que si on commence à penser à la suite de Goody que l'écriture relève plutôt de la technique, on est un petit peu embêté, surtout quand on a fait pas mal d'études, y compris des études scientifiques, où on se rend compte que on a quand même pas mal de difficultés à essayer d'imaginer la démonstration d'un théorème des mathématiques sans ce qu'on appelait dans le temps au moins un peu de papier et un crayon. C'est-à-dire que, à part des personnes comme Ramanujan, peu d'entre nous sont capables de rêver des théorèmes des mathématiques. On a vraiment besoin de s'appuyer sur une confirmation de ce que nous avançons. J'ai pas envie d'employer le mot preuve parce que Gérard Berry est là, mais qui s'appuie énormément sur sur de l'écrit et de manière très lente. Alors la chose sur laquelle on insiste depuis assez longtemps, c'est que contrairement aux discours actuels qui nous disent que discours qu'on rencontre aussi à l'université, que l'internet signale une réelle révolution, on voudrait simplement remarquer que effectivement avec l'internet et les ordinateurs, on remarque que notre pensée est clairement instrumentée, c'est-à-dire on a des objets qui sont en face de nous, qui nous aident à chercher, à trouver, à nous documenter, éventuellement à appliquer des méthodes, et on peut plus conserver à la pensée le statut hautement spirituel que lui accordait parfois Hegel. L'idée d'utiliser l'internet comme un révélateur me semble quelque chose de particulièrement instructif, parce qu'on réalise qu'à ce moment-là, on a toute une tradition de penseurs d'érudits qui ont essayé déjà d'aborder bien avant nous la question du lien entre technique et pensée. Je voudrais juste en rappeler quelques-uns. Certains ont été jusqu'à considérer que l'activité de pensée pouvait se résumer à du calcul. Je ne vous donne pas la citation de Leibniz, mais Granger la reprend, et Parocchia, philosophe lyonnais par adoption, membre du gang des Lyonnais de l'école de Dagonier, c'est ainsi que ces philosophes se définissent, a aussi commis un livre sur ce thème. J'ai parlé de Dagonier qui rappelle lui aussi avec Goody que l'idée d'une pensée pure, spirituelle, désincarnée, non instrumentée ne tient pas. Je pose des questions qui ont l'air un petit peu annexes et secondaires relatives à une forme de un certain type d'usage de l'écriture. Vous savez que depuis les années 90, beaucoup de gens ont écrit que l'importance du web consiste dans le fait qu'on n'a plus accès à une écriture linéaire, mais une écriture hypertextuelle, éventuellement multidimensionnelle. Et on réalise que cette question de la spatialité de l'écriture a été abordée de manière très très efficace par des personnes comme Descartes depuis donc assez longtemps. Je pose peut-être une question un peu plus technique, celle de ce que pourrait être la culture numérique dont nous parlons aujourd'hui. Et si on considère l'écriture comme une technologie de l'intellect et qu'on mesure l'ensemble de ses effets intellectuels mais aussi sociaux et politiques, on réalise que la culture de l'écrit, c'est une sorte, un ensemble de méthodes qui sont définies en collectif pour essayer de résister à une douloureuse adversité qui s'appelle l'herméneutique, c'est-à-dire la question de l'interprétation. C'est pas trop difficile de réaliser aujourd'hui, quand nous échangeons des mails, à quel point nous avons des facilités à mal comprendre ce que nous lisons en termes de mails reçus, ou à l'inverse, que les gens ont du mal à comprendre les mails que nous envoyons. Ça a toujours été manifeste. C'est attesté par exemple par Olson autour du XIe siècle, et il montre que des personnes comme Hugues de Saint-Victor, c'est-à-dire de l'abbaye de Saint-Victor qui est aujourd'hui sur le site de l'université de Jussieu, a essayé de trouver une réponse à cette question de l'interprétation. Par exemple, à l'époque, c'était l'interprétation de textes religieux. Et si on imagine que la culture de l'écrit est un ensemble de méthodes construites collectivement pour résoudre ce problème et qu'il y a une dimension réflexive à cette tentative de résolution du souci, on peut comprendre un petit peu mieux ce que signifie aujourd'hui la culture, par exemple, numérique, c'est-à-dire c'est une culture de l'écrit contemporain qui essaye effectivement de se débrouiller avec des questions de normes, de fabrication de normes, pour le meilleur comme pour le pire, parce que dans la question de la fabrication des normes, vous avez évidemment des personnes qui sont capables de les imposer, d'autres qui ne le sont pas trop. Voilà, j'insiste pas sur les derniers points qui renvoient à une série d'auteurs qui sont aussi de la plus grande importance, comme De Certeau, Gilles ou Finberg, pour essayer d'appréhender la notion de technique et de système technique. Les questions qu'on peut se poser sont, par exemple, si j'essaye d'aller très rapidement, je peux peut-être directement passer à la diapo suivante, c'est est-ce que un ensemble de dispositifs techniques a priori mineurs peuvent avoir une grande incidence sur nos capacités à penser, nos capacités à imaginer, à aborder des problèmes de manière renouvelée. Alors parmi ces dispositifs mineurs, il y a effectivement la spatialité de l'écriture qui me semble effectivement c'est attesté chez Descartes, hein, c'est-à-dire il ne peut pas construire sa théorie des polynômes s'il n'invente pas une écriture spatiale. Jean Dombre, ici présent, le rappellera éventuellement cet après-midi. Un autre point qui semble aussi excessivement important, c'est le statut de l'image. C'est-à-dire que l'image, on sait très bien que dans le domaine de la peinture, je pense qu'on en parlera cet après-midi avec Claude Imbert, et comme de la photographie, il est difficile de construire une sémiologie, c'est une sorte de grammaire qui permettrait d'articuler un raisonnement, mais il y a certains types d'images, comme les schémas, comme les cartes, sur lesquelles il est possible de construire un raisonnement. Et le fait qu'on arrive à construire aisément des raisonnements à partir de données textuelles, parce que on en a plus l'habitude, parce que c'est une technologie de l'intellect qui nous est qui sont particulièrement efficaces, peut donner l'idée de se dire mais tout ce qui relève du graphique qui pourrait être intégré dans un raisonnement mérite à ce moment-là d'être textualisé. Et c'est exactement ce qu'on réalise, ce qu'on découvre avec nombre de cartes et d'outils d'expression graphique avec les ordinateurs. Donc on a comme ça des petits indices qui sont susceptibles d'avoir des effets redoutables et qui peuvent nous poser la question de savoir jusqu'à quel point la théorie, par exemple en sciences sociales, est effectivement construite par et consécutive à une activité intellectuelle relativement sophistiquée, ou est-ce qu'il ne faut pas être plus humble en se demandant jusqu'à quel point nous énonçons les théories que nous pouvons éventuellement construire, vérifier, parce que nous avons une certaine instrumentation qui est à notre disposition. Et en l'occurrence, la question de la culture de l'écrit, qui est aussi un catalyseur d'idées, de problématiques, etc., aujourd'hui comme hier, passe par une sorte de savoir-faire qui est tout à fait élémentaire, c'est-à-dire l'art de jongler avec les mots, les systèmes de signes. Et on peut réaliser aujourd'hui que il peut, dans certains cas, être intéressant d'avoir une maîtrise de ce qu'on pourrait appeler une combinatoire textuelle. On jongle avec des signes un peu bizarres, des groupes de signes qu'on peut considérer par exemple comme les expressions régulières en informatique, et ça nous aide à produire des raisonnements. L'exemple de combinatoire textuelle tout simple, c'est l'art de jongler avec des nombres et des polygones pour faire des cartes diverses et variées qui vont permettre à la vérification d'une hypothèse ou au contraire de reposer à nouveau frais une problématique. On a aussi d'autres choses tout à fait amusantes qui se produisent, c'est-à-dire que hier Gérard Berry expliquait à quel point c'était pas très très utile d'amasser des données, des informations sans arriver à les mettre en perspective. C'est un phénomène que l'on rencontre fréquemment, C'est-à-dire que quand vous avez beaucoup de choses et qu'à un moment, il faut avoir l'idée de les ranger parce que sinon, on est noyé par la masse. Et ce genre de phénomène se produit, par exemple, avec Gabriel Naudet qui n'a plus 300 livres dans sa bibliothèque, mais 8000. 8000, c'est compliqué. Et à ce moment-là, il faut réorganiser les savoirs. Et c'est aussi ce qu'on réalise, par exemple, avec le nombre de pages web qui existent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est tout à fait possible que la quantité, honnie par certains amoureux des concepts et du qualitatif, soit en fait le ferment qui permette de renouveler les approches un petit peu méta, surplombantes, qui sont en fait à l'origine de nouvelles catégorisations théoriques. Voilà un petit peu l'ensemble des questions que l'on peut se poser et que moi je me pose en ce moment. Et je voudrais peut-être au moins conclure par le fait que ces questions sur l'importance de l'écriture, l'importance de la technique dans la pensée, dans la capacité à produire du raisonnement, vont avoir des effets épistémologiques. En l'occurrence, on a en général le vieux schéma qui nous est enseigné, qui nous explique que une science se construit par le biais d'une circulation entre le terrain, l'empirie, l'expérience et la théorie, la problématique, etc. Et on réalise aujourd'hui avec notre pensée instrumentée que c'est assez difficile d'imaginer qu'il puisse y avoir une relation entre la théorie et le terrain si on passe pas par l'ensemble des méthodes qui permettent de vérifier la pertinence d'une idée, de faire des mesures, etc. Or, ces méthodes prennent une place infinie, pas infinie mais non négligeable, il faut du temps pour les apprendre. Elles vont infléchir notre manière de raisonner, d'organiser des catégories, des formes des articulations dans ce raisonnement. Et si on regarde un petit peu plus finement les choses, on remarque que c'est pas nouveau. Peut-être que même à l'époque d'Einstein, l'instrumentation, la part de la méthode et de la technique était déjà excessivement importante. Et du coup, on a envie d'imaginer que l'épistémologie reposerait plutôt sur un triptyque que sur un diptyque, donc avec relation, expérience, théorie et le troisième terme qui serait méthodes et techniques. Peut-être conclure tout de suite, sauf j'ai eu l'idée ce matin, on verra assez rapidement si elle est pertinente ou pas. Clarisse Ehrenschmidt a tendance à dire que l'écriture visualise le flux oral et elle le matérialise d'une certaine manière, et je trouve que cette analyse est très pertinente, et je me demande jusqu'à quel point elle ne peut pas s'appliquer tout de suite à cette réalité, c'est-à-dire notre goût pour le vidéoprojecteur, les diaporamas, etc., atteste peut-être du fait que quand il y a le flux oral, par exemple une introduction comme celle-là, etc., peut devenir visible, tangible, c'est-à-dire s'inscrire dans une forme d'écriture, est-ce qu'on n'a pas l'impression que du coup les choses nous semblent plus accessible, plus facile à comprendre? On pourra en parler tout à l'heure. Je ne voudrais pas poser la question de l'éducation à la culture numérique, mais je voudrais simplement remarquer que dans les soucis que nous pouvons rencontrer dans certaines disciplines, je parlais tout à l'heure de discours d'escorte qui se déploie au sein de l'université, c'est-à-dire que j'ai des étudiants hier qui m'ont dit... j'étais sympathique, ils m'ont dit que mon cours était leur apprenait des choses, et ils m'ont dit c'est drôlement bien parce qu'on a des cours sur les réseaux sociaux d'entreprise, donc c'est le Facebook pour entreprise, et les gens nous expliquent tous les avantages de la chose, etc., sans aucun recul, alors que pour moi, à partir du moment où il y a une instrumentation qui rentre dans les logiques de communication et de collaboration, surtout avec dans un espace de pouvoir comme celui de l'entreprise, je suis obligé de me poser des questions. Et je pense que c'est aussi important de pouvoir réintroduire l'idée de pensée critique au sein de l'université. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il est possible que, à partir du moment où on perd la compréhension de la technicité de l'écriture et du coup de l'évolution de la manière dont notre pensée se réorganise du fait d'une nouvelle instrumentation par le biais de l'informatique et des réseaux, on perd peut-être l'accès à certaines pensées critiques. Voilà, énormément de questions, peut-être trop, dites volontairement trop rapidement, et tout simplement pour nous inciter, vous inciter à les approfondir avec vos propres regards, votre propre culture, sachant que vous avez tous et toutes, les intervenants, mais aussi les gens qui sont ici, un goût prononcé pour l'échange et pour le débat. Voilà, donc je pense que c'est maintenant le moment de laisser la parole à Jean Dombre. Et je vous rappelle que vous avez ici le programme de la journée. Les intervenants viennent ou ne viennent pas comme